money, ay. Benny is money, ay. Benny is money, c'est la révision des cons, ay. Benny is money, ay. Benny is money, ay. Benny is money, c'est la révision des cons, ay. Benny Limosa, Benny Two Belts, Benny Best in the World, l'univers au complet. Monday night, Benny, Friday night, Benny, deux fois semaine, on est Benny par notre sauveur qui est Benny. On se croise les doigts pour un actif, on a déjà des passifs, une clave de golf.
Lundi 14 novembre 2022, bienvenue dans votre révision des comptes, celle de Monday Night Raw. Vous allez comprendre beaucoup de choses ce soir, oui. On a défini des trucs, on a défini des matchs qui s'en viennent à Survivor Series War Games. Et vous allez pouvoir rentrer dans mon esprit ce soir, vous allez comprendre ce que j'aime et je n'aime pas dans la façon de faire les choses de Triple H et de son équipe, mettons-le à la tête de tout ça. Parce qu'il y a des petites affaires, des fois, qui sont parfaites, puis il y en a d'autres, des fois, que tu fais comme « Ah! » Pourquoi? Mais on va en parler en long et en large ce soir. Le War Games féminin, qui s'est pas mal défini, qui sera pas mal, c'est ça? Fort heureusement pour nous, il reste encore une place. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Oh là 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 là, les spéculations vont aller bon train. Aïe, 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 on sait qu'on est à Boston dans deux semaines. Mais là, il ne reste plus deux places. Il ne reste qu'une seule place. Alors, on va voir probablement dans les prochains jours, prochaines semaines. Vous allez voir ça partout sur les dirt sheets. Les gens vont commencer à spéculer fortement. Vous allez voir. Ça va sortir très, très fort. Mais on a presque défini le match féminin à War Games. On a défini des nouveaux matchs qui auront lieu aussi à War Games. Et il y a un certain Austin Theory ce soir qu'on croyait mort, enterré, finito, terminado. Triple H avait décidé que non, celui qu'il considérait comme un de ses favoris dans The Way, on pensait que ça y était. Il l'avait shippé en bas du building. Mais non! Il est revenu tel un phénix. Il est renaît de ses cendres. Et c'est pourquoi ce soir, il a eu le haut du pavé et a terminé la soirée en force. On va en parler durant cet épisode de la révision de Monday Night Raw. Merci beaucoup d'être là. Merci beaucoup à tous ceux qui sont abonnés à la chaîne, tous ceux qui repartagent le contenu. Grand merci à vous tous de le faire. Aussi, ben, n'hésitez pas à laisser des petits likes sur la version, soit sur YouTube, ou soit sur Facebook, ou soit sur les plateformes de balado-diffusion comme Spotify. N'hésitez pas à laisser des petits likes et des 5 étoiles et toute la patente pour aider la chaîne. Grand merci à vous. On commence ce soir, petite nouvelle avant de parler directement du show, parce que notre Kevin Owens national, oui, malheureusement, s'est blessé en fin de semaine dans un match contre Austin Theory, justement, et malheureusement, serait à l'écart. On parle de semaines, donc 4, 6, 8, on ne sait pas trop. Contusion, je pense, ou en tout cas, ligament de son genou qui est abîmé. En tout cas, à date, les premières nouvelles qu'on a ne sont pas si dramatiques dans le sens que ce n'est pas une opération qui va demander des mois et des mois de traitement et de réhabilitation. On parle de semaines, heureusement pour nous, car on sait que en février, oui, ce sera le Elimination Chambers à Montréal. Et donc, on attend beaucoup, j'imagine. On espère qu'il y a comme une grosse présence de Kevin Owens et de Sami Zayn durant cet événement à Montréal, premier PLE en 14 ans. Et ben pour l'instant, tout ça est encore possible. Rien n'est gâché, mais on souhaite que ça ne soit pas trop grave et que Kevin puisse revenir incessamment ou le plus rapidement possible, oui, à la télévision. Alors, on lui souhaite un bon rétablissement. Autre nouvelle, justement, par rapport, un petit peu, par rapport à Elimination Chamber, c'est que le lendemain de Elimination Chamber, pour les fans de la grande région d'Outaouais, de l'Outaouais, oui, si vous êtes dans le coin d'Ottawa, le Monday Night Raw a été annoncé ce soir, ou en tout cas, je l'ai vu passer aujourd'hui, alors je vous en parle aujourd'hui, que Raw sera présenté à Ottawa le 20 février prochain. Donc peut-être, si vous voulez faire le voyage, aller à Ottawa le lendemain, ou en fait le 2, en tout cas après, le lundi suivant le pay-per-view à Montréal, ben, vous pourrez aller à Ottawa pour regarder Monday Night Raw qui sera là-bas. Les billets sont en vente, je pense, la même journée que pour Survivor Series, c'est-à-dire le 18 novembre, ce samedi 18 novembre. Alors voilà, ça fait le petit résumé des nouvelles avant Monday Night Raw. On peut se lancer, car ce soir, je dois vous dire, il y a énormément de stock. Quand on dit énormément, je me suis rendu à presque 21. J'ai été généreux dans toutes mes notes. Je me suis rendu à 20 segments. 20 segments, pour être très, très, très honnête. 20 petits segments. Et on va essayer d'y passer très rapidement parce qu'il y a beaucoup d'affaires. On a lancé des choses. Des fois, c'était bon. Des fois, c'était pas bon. Mais c'est pas grave, c'est la beauté de Monday Night Raw, c'est qu'on a 3 heures de temps et des fois, on peut, c'est ça, s'amuser. Comme par exemple, l'utilisation d'Akira Tozawa. Tozawa qu'on n'avait pas vu depuis quand même assez longtemps. Surtout maintenant que la maudite ceinture 24-7 est juste à côté d'une poubelle à quelque part dans un aréna. Pauvre Dana Brooke, hein, qui est très, très triste de voir que tout le travail acharné qu'elle a fait. C'est Ricky Bobby qui pleure, j'imagine, chez lui ce soir en se disant « Colin, Dana Brooke qui n'a pas de respect ». Mais malheureusement pour elle, c'est ça. Alors, on se demandait, hein, est-ce qu'on allait revoir un jour Akira Tozawa? Mais on l'a vu ce soir. Donc, c'est ça. C'est toujours une bonne soirée. Hein? Ça nous ramène des bons vieux souvenirs, mais on est allé beaucoup plus loin dans la nostalgie ce soir, mais on va en parler un peu plus tard dans l'épisode. Alors, on commence immédiatement. Seth Rollins, le visage de Monday Night Raw. Celui dont on ne sait trop, hein, quand est-ce exactement le point précis où, pour une raison X, il est devenu babyface. S'il y a quelqu'un qui est au courant, n'hésitez pas à me l'écrire en commentaire si vous écoutez la révision des comptes ou si vous regardez plus tard. N'hésitez pas. Laissez-moi en commentaire. Dites-moi pour vous, c'est quoi le moment exactement où Seth Rollins est devenu babyface. À part le fait que la foule était très heureuse de chanter « Wow! » À part ça, je ne sais pas trop. Mais bon, on embarque à foule parce que maintenant, Seth Rollins porte une chevelure. C'est fantastique. Il a comme sa coupe normale, on dirait, quand on le regarde bien vite. Et derrière, un immense amas de foin blond jaunâtre qui vole dans le ciel. Tel un chanteur de pop rock des années 80. C'est de toute beauté, les cheveux de Seth. On dirait qu'il s'est poussé à une vitesse. Je soupçonne les rallonges tellement c'est étoffé. Il y a beaucoup de travail dans cette chevelure divine. Mais Seth qui, avant, hein, arborait juste la petite couette, maintenant, là, c'est la chevelure au vent, ça a brûlé au peroxyde, cette histoire-là. C'est fantastique. C'est de toute beauté. Donc, Seth, très heureux. Il est champion. Il s'en est-tu passé des affaires, hein, la semaine passée? Grosse fin de soirée. Lui qui pensait avoir un petit facile open challenge, finalement, oh, toute la patente. Puis bon, Theory qui fait son cash-in et la foule de Louisville au Kentucky. Ce soir, l'épisode de 1538 était en provenance du KFC Yum Center. Naturellement, tu es au Kentucky, il faut que ton building s'appelle le KFC Yum Center. C'est toujours beau. Donc, à Louisville, les gens n'ont pas hésité à traiter Theory de maudit stupide. Puis en même temps, ils n'ont pas dit genre « Theory is stupid ». Ils ont dit « That was stupid ». Pour un peu, en même temps, il y avait un petit message à Triple H, pas juste à Austin Theory, parce qu'on sait bien que, tu sais. Donc, il y avait un petit message, c'était pas mal niaiseux, ça. Le cash-in est là, Rollins a dit, ben, il va être là plus tard, vous y direz vous autres même, là, que c'était pas mal niaiseux ce qu'il a fait la semaine passée. Donc, très drôle, mais ce soir, Seth Rollins va défendre sa ceinture, oui. À ce moment-là, je vous avoue que je le savais pas encore, parce que je sais pas quand ça a été changé. Et, tu sais, là, durant les semaines de vacances, les gens se sont bien moqués du fait que, avant de partir en vacances, je n'avais pas réalisé du tout que Bianca Belair ne mettait pas sa ceinture à l'enjeu. Alors, la WWE a voulu en remettre en annonçant que le match entre Finn Balor et Seth Rollins n'avait pas le titre à l'enjeu. Et là, tout à coup, ils ont changé ça pour essayer de me confondre puis là, me faire mal paraître encore une fois. Mais cette fois-ci, j'étais très attentif. Les vacances ont payé. Maintenant, là, je ne me suis pas fait avoir. Tout vu ça aller, qu'il avait changé ça et que finalement, la ceinture de Seth Rollins serait à l'enjeu ce soir face à Finn Balor en fin d'émission pour le main event de la soirée. Bobby Lashley, lui, non, il n'était pas d'accord avec ça. Donc, il est arrivé pour dire que la raclée de la semaine dernière, ben, ça va continuer tant qu'il ne serait pas champion. Mais là, Bobby, je suis bien d'accord avec toi, mais tu sais, vas-y. N'arrive pas dans le ring en disant « Je vais continuer à te donner des raclées jusqu'à temps que je récupère mon titre. » Et ne pas donner une raclée. Tu dis « Ben, finalement, tu mens dans tes propos. Tu n'y vas pas à fond dans... » ce que tu inventes, puis ce que tu... Tiens, vas-y. Si t'es pour donner des raclées, donne des raclées. Mais là, il a été distrait parce que Mustafa Ali est arrivé lui aussi. Mais là, Mustafa Ali est arrivé avec un arbitre. Presque comme si lui aussi faisait un cash-in, mais non. Il est arrivé, puis il a dit, non, moi, je veux me battre. Comme là, Bobby a dit, viens pas te battre ici. Tu vas manger une autre volée, toi aussi. Arrête, tu vas te faire du mal. Mustapha, c'est un vrai, il est fou raide. Donc, il rentre dans le ring, il se fait tabasser par Bobby, et là, Bobby le garoche en bas du ring, il reprend le micro pour dire à Rollins, là, tu vas voir, ça va, là, Ali revient encore, puis là, Bobby est encore obligé de le sacrer par-dessus. La troisième corde, le faire tomber encore en bas. Puis là, Rollins fait comme, moi, je sac mon camp de site, j'ai un match de toute façon, vous m'intéressez pas, j'ai des affaires plus importantes. Alors là, ben ça nous donne premier match de la soirée entre Bobby Lashley et Mustafa Ali. C'est ça. Et pauvre Mustafa Ali, qu'est-ce qu'on a voulu exprimer avec Mustafa Ali? Eh bien, ça a été 4 minutes. Pauvre 4 minutes. Dans le sens où Mustafa Ali, l'image, qu'est-ce qu'on a voulu dire avec Mustafa Ali? C'est il est tenace. Il est tenace. Ce petit Tom féroce qui, malheureusement, n'a aucun succès dans le ring. Et vraiment, à la manière de Ricochet, Ricochet est un spécialiste de ça. T'sais, on se souvient contre Brock Lesnar, ça avait été une fantastique performance d'une minute cinquante. Ben, Bobby, lui, s'en est donné un cœur joie. Malheureusement, une fois, il a voulu faire un genre de spear dans le coin, puis Ali s'est tassé. Ça lui a donné un beau 30 secondes d'offensive. Mais Bobby s'est tout de suite repris avec un spear qui a fait flipper Mustapha, tête par-dessus bord. Ça a été terminé en 4 minutes. Puis c'est ça. Alors, Mustapha, ça sera pas ça. Ça sera pas ça cette année encore. T'sais, alors, retourne. Je sais pas quoi. Je suis embêté de savoir qu'est-ce qu'ils veulent faire avec Mustapha Ali. Ça donne quoi de le massacrer? De nous dire qu'il est résilient, il est prêt à se faire massacrer comme ça à chaque semaine? C'est ça. C'est un peu mince. C'est un peu comme, mais oui, on le sait que tu vas te faire planter. Mais au moins, il te donne un petit quelque chose de genre... Ouf. Non. Rien. Bon, c'est un peu triste. Bon, Jérémy, qui a une explication... Non, je pensais qu'il allait me donner une explication sur pourquoi Rollins est derrière, mais il y a une petite explication sur Theory. On va revenir tantôt. Merci, Jérémy, de commenter, d'être là. Ricky aussi, merci beaucoup d'être là, mais je ne vois pas ton message. Je pense que c'était pas, ça n'a pas été accepté. Enfin. Mais merci beaucoup d'être là, tous ceux qui sont sur le chat. N'hésitez pas à commenter au long des segments et de me donner ce que vous avez pensé des matchs. Je ne sais même pas, on peut-tu noter Bobby Lashley, Mustafa Ali? Pas tant. C'est dommage. C'est même pas un match notable. Tellement... Et Ricky, lui, n'hésite pas. 5 étoiles. Adore voir un gars de Chicago se faire massacrer. Malgré que là, Ali, lui, a peut-être la tête ailleurs aussi. Hein, parce que là, on sait qu'à Raw, il y a une histoire. Mais à SmackDown, il y a une autre histoire. Il est dans la Coupe du Monde. Peut-être qu'il a la tête à la Coupe du Monde. Il voulait rentrer dans la Coupe du Monde avec le titre US. Je ne sais trop. Enfin. Tu sais, des fois, ça se parle pas, ces deux silos-là. C'est deux affaires qui... On a eu beaucoup de segments backstage ce soir. Le premier, c'est une petite entrevue de DOC en compagnie de Cathy Kelly. Très occupée, Cathy Kelly. tellement qu'elle était habillée un peu comme sans être. Mais tu sais, quand, par exemple, une femme, disons-le, comme ça, et qui s'en va dans une chambre d'hôtel et avec son amant, son mari, son conjoint, peu importe, a des ébats amoureux très intenses qui font en sorte qu'elle perd son linge. Ça arrive tellement, tu sais. Le linge revole, puis à un moment donné, whoops. Et là, pouf, ça cogne à la porte parce que c'est, je sais pas, room service, livraison de quelque chose. Puis là, la fille, oh mon Dieu, je sais pas où est mon linge. Ah, qu'est-ce que je fais, qu'est-ce que je fais? Ben là, le gars, il dit, regarde, prends ma chemise, elle est très, très grande. Tu vas voir, ça couvre tout. Et c'est exactement ce que Cathy Kelly portait. Alors, je ne vous présenterai pas ça, c'est presque indécent. Mais si ça vous intéresse de voir Cathy Kelly habillée avec une chemise longue et datite, ben voilà, c'était ça son attirail très professionnel pour faire des entrevues. Luc Gallows, lui, très fier d'être un homme à femme. Et c'est grâce à lui, selon lui, qu'il a pu recruter Mia Yim. Il a incité Mia Yim à rentrer dans DOC. Alors, ils sont très heureux et AJ Styles va lancer un défi à Finn Balor, un autre match qui a été annoncé ce soir officiellement. Il défie donc Finn Balor à Survivor Series parce que là, ça y est, là, il est tanné. Là, la rivalité avec Judgment Day, puis là, le fait qu'il rentre, il rentre pas, puis là, il est tanné. Ça dure depuis WrestleMania, effectivement, on l'oublie tout ça. Mais il est tanné. Il est tanné, là, il veut que ça se règle. Et pour régler ça, tu sais, question d'y aller groupe contre groupe, c'est Survivor Series, tu sais, le genre d'événement où on s'attend à ce que des groupes s'affrontent dans des matchs. Non, lui, il dit non, gars, moi, toi, mano à mano, et that's it, that's all. Bon. C'est parce que probablement qu'on a déjà vu le match 3 contre 3, vous allez me dire. Mais oui, il y a ça. Et 4 contre 4, ah ben c'est pas possible. Et vous allez savoir pourquoi. Un peu plus tard, ça aussi. Mais donc, dit aussi, très heureux de Mia Yim, très, très, très heureux. Et ça tombe bien parce que Mia Yim faisait ses débuts officiellement dans le ring. Et ben, on pouvait s'attendre à ce qu'elle affronte quand même une adversaire de taille pour faire ses débuts dans le ring. Eh bien, elle affrontait Tamina! C'est ça. Ben, on est heureux que Tamina ait du temps d'antenne. Elle aussi, hein, qui a subi le fait que la ceinture 24-7 se soit retrouvée tout juste à côté de la poubelle. Alors, ben voilà, un beau 2 minutes pour Tamina qui a subi le Soul Food, qui est une espèce de Mia Yim se garoche à terre, mais en tenant le bras de Tamina et avec l'autre pied, paf! Oups! Pendant que, tu vois, même moi, ma casquette m'en mange un coup. Alors, un bon... En tout cas, c'est très officiel. C'est très... C'est ça. C'est ça. Tamina qui, comme à l'habitude, a raté son splash. Hein? Parce que Tamina, même quand elle le réussit, elle le rate un peu. Bon. Et les gens dans la foule qui ont chanté « Oh, Baskin is glory! » En même temps, on est rendu à une autre étape, à la All Elite, on ne chante plus Baskin is Glory, parce que, mais les gens qui bon, voulaient faire référence, c'était très gentil de faire référence à M. Yim. Alors, ben, victoire après, ben, il y a eu une petite, parce que Dominique et Rhea étaient allés regarder le match aux abords du ring. Et là, Rhea a fait mine de rentrer dans le ring, invité par Mia Yim, qui était comme « Ah ouais, viens te battre », puis là, Rhea a dit « Non, j'irai pas finalement. » C'était beau. S'en est suivi toute une série d'événements parce que Mia Yim, son match a été regardé, le 2 minutes, a été regardé par Damage Control, oui, qui regardait ça au petit écran. Au petit écran de service. Donc, Damage Control regardait ça. Et là, ben, ils ont interpellé Mia Yim, lui disant, « Hey, là, tu reviens. Puis toi aussi, tu as été maltraité. Tu es exactement comme nous. Hein? Toi aussi, on sent que tu pourrais très bien fitter pour War Games dans notre équipe. » Et là, ben, Mia Yim m'a dit, « Ben, c'est gentil de l'invitation, j'accepte, tu sais, je suis contente de... » J'accepte pas, non, je suis contente. Je suis flatté de me faire inviter, mais je n'ai rien contre Asuka, Bianca et Alexa. Donc, non. Oh là là, là, Damage Control sont comme, « Oh là là, tu sais que c'est un War Games, là, puis que, tu sais, il faut que tu choisisses un côté, hein? » Mais là, DOC aussi sont arrivés, fait que ça a évité que ça escalade. T'sais. Alors là, la situation s'est comme réglée comme ça. Portons-nous un peu plus tard dans la soirée, il y a Dakota Kai et Io Sky, non, juste Io Sky, mais Dakota Kai accompagnait Io Sky, accompagnée de Bayley, et de Nikki Cross, qui était là pour regarder dans le ciel, mais surtout admirer, elle qui s'intéressait fortement au match entre Io Sky et Dana Brooke. Oui, parce que c'était très important ce match, question que Dana Brooke puisse venger la poubelle, toute la patente. Et elle s'est vengée contre Io Sky. Alors pourquoi, je ne sais trop, mais c'était le plan machiavélique qu'elle avait. Et 3 minutes 28, ce qui est probablement le plus long match de Dana Brooke depuis Money in the Bank en 2020, dans le building de la WWE, quand Dana Brooke était partie à courir à pleine vitesse, n'avait pas vu que le gars qui faisait le ménage avait mis une flaque d'eau, puis là, flap, perdu connaissance, s'était pété à la tête, ne s'est jamais rendu au toit du building. Alors, depuis ce temps-là, on n'avait pas connu un match aussi long que 3 minutes 28. Eh bien, c'était malheureusement un échec. Quelle surprise! Alors que ben, la gymnastique de Dana, hein, elle qui fait du coin à coin en gymnastique, ça ne fonctionne jamais. Tomber dans un German suplex et finalement, ben, le moonsault qui est allé donner la victoire à Io Sky pendant que la seule personne qui regardait ça attentivement, c'était Nikki, qui était comme ça dans les airs. Oh, wow, vous êtes tombé bonne. Oh, puis Dana a mangé de maudite. Oh, c'est bon. Alors, ça allait très bien. Là, oh, Mia Yim sort. Et elle dit, oh, ben les filles, c'est vrai que... Hein, je vais vous donner une réponse. Oui, mais tantôt, tu as dit, il me semble que non. Mais en fait, c'est correct, c'est beau. Tu veux redonner une réponse, donne-nous une réponse. Eh bien, la réponse, c'est que j'ai choisi mon camp. Et qui c'est qui sort? Tu sais pas, Bianca Belair, Alexa Bliss et Asuka qui viennent accompagner Mia Yim. Ils seront donc quatre du côté des gentilles pour affronter les quatre autres devant elle en Damage Control et Nikki Cross. Alors là, on était à 4 à 4 à ce moment-là. Eh bien, qui dit Mia Yim d'un côté? Eh bien oui. Là, après, dans un autre segment, Rhea Ripley est arrivée par la vue Damage Control et a dit, si Mia Yim est de votre bord, est de l'autre bord, moi, je suis de votre bord, y a-tu quelqu'un qui a quelque chose à dire contre ça? Puis là, Damage Control a dit, c'est bon. Très, 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 très bon. Très, très bon. Alors, c'est la réunion qu'on n'attendait plus. Rhea Ripley qui sera dans la même équipe que Nikki Cross. Hein? On pensait jamais qu'on reverrait ça de notre vie. Eh bien oui, Nikki Cross de retour dans la même équipe que Rhea Ripley en compagnie de Damage Control. Je te dis que c'est exactement les deux personnes que tout le monde pensait que ça serait en compagnie de Bayley, de Dakota Kai et de Io Sky quand on a annoncé War Games. On s'est tout de suite dit, oh les deux, c'est un tag team qu'on n'a pas vu depuis très longtemps. C'est sûrement Rhea Ripley et Nikki Cross. C'est sûr et certain, c'est sûr. C'est exactement les deux qu'on pensait qu'ils seraient là. Alors, c'est les deux qui seront là. Maintenant, le livre de jeu est ouvert. Alors, est-ce que vous pensez qu'à Boston, Sasha Banks va revenir? Ou si la dernière qui nous manque du côté des bonnes, c'est Candice LeRae. Alors, les paris sont ouverts. Alors, je vous lance la question. Êtes-vous team Sasha Banks? Ou êtes-vous team qu'elle mange la chenoute Sasha Banks? Elle n'est pas là depuis des mois. J'aime mieux revoir Candice LeRae et qu'elle puisse s'exprimer dans un War Games. Elle qui a quand même l'expérience, il faut le dire. Alors, les paris sont ouverts. Ça va spéculer à fond dans les deux prochaines semaines, je vous le dis. Mais bon, voilà. Déjà, M.O.C. qui nous dit Candice LeRae. C'est une prédiction sage. Mais je pense, effectivement. Et il y a Jérémy qui dit Raquel. Raquel, peut-être. Mais en même temps, là, Raquel, malheureusement, est occupée avec Sonya Deville à SmackDown. Est-ce que... je ne sais pas. C'est un choix un peu... Il y a une logique, je suis d'accord, mais je ne mettrais pas beaucoup d'argent sur Raquel, malheureusement. Mais bon, est-ce que donc, finalement, les discussions avec Sasha Banks et tout, il y a des rumeurs qu'elle était backstage, il y a quelques événements dans un house show récemment et tout, est-ce que c'est de la frime? Est-ce que c'est de n'importe quoi? Peut-être, mais... voilà, c'est donc un peu... Il y a comme quelque chose là-dedans d'un peu... Ah, ouais, ça aurait été le fun, pareil, mais Je vous le dis, ça va être excitant de voir les Dirt Sheets dans les deux prochaines semaines, de nous dire si oui ou non il va se passer quelque chose avec Sasha Banks. Ensuite, ben, pour terminer tous ces segments interminables en coulisses, ben, les gentilles, donc le côté des gentilles, était tout en compagnie de Cathy, là, j'ai juste une chemise. Et Cathy nous a dit que la semaine prochaine, il y aurait un match pour déterminer qui va être l'équipe qui va commencer ou qui va avoir l'avantage, donc pas commencer. En tout cas, tu sais, oui, ils commencent quand ils ont l'avantage, c'est ça. Bref, il y aura un match la semaine prochaine. On ne sait pas encore qui sera dans ce match pour déterminer qui va avoir l'avantage dans le War Games et commencer le match. Mais Bianca a dit peu importe qui, ça ne nous fait pas peur. Alors voilà. On saura exactement, mais je ne sais pas si on saura qui sera la cinquième participante. Voilà. Tout ça est complet. J'espère que vous êtes excités. J'espère que, tu sais... Parce que les gens étaient fâchés que je ne suis pas excité par le War Games masculin. Mais c'est comme ça. Mais ça s'en vient qu'on va parler bientôt de comment je... Ma mentalité. Vous allez rentrer dans mon cerveau bientôt. Dans un des matchs, restez là. On a eu ensuite Matt Riddle et ses bongos. Oui, Matt Riddle et ses bongos. C'est très bon, Matt Riddle et ses bongos. Aïe, 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 quelle tristesse. Matt Riddle qui était en pleine ascension. Matt Riddle qui avait retrouvé toute la crédibilité qu'il avait perdue avec Vince McMahon. Hein? Et là, ben, je sais pas. Il gagne à Extreme Rules dans son pit. Ramenez-nous le Matt Riddle qui fume. C'est tellement meilleur. Ça nous manque, ça, ces segments-là, cocasses, rigolos. Avec Alpha Academy. C'est triste, un peu. Il faut encore attendre. C'est comme il faut mettre encore Riddle sur le back burner. C'est ça. J'essaie de comprendre pourquoi Triple H s'entête à. Je sais pas. Il y a des affaires, des fois, bizarres. Faut pas trop chercher à comprendre, mais bref, une séance de bongo. Et il nous dit que Elias n'est pas là ce soir parce qu'il organise la tournée rock de leur band. Ils vont partir un moment donné sur une tournée rock. Et là, Alpha Academy dit « Ah, c'est bien niaiseux cette histoire-là. » Et ce soir, Gable va planter Riddle. Alors, hey, bonne chance. On y croyait beaucoup à ce que Matt Riddle perde contre Chad Gable. C'est étrange parce que, sur le coup, je me suis dit « Oh, il me semble que c'était un match qu'on a vu plein de fois. » Mais non, pas tant que ça. Seulement 6 fois en 2022 et 7 fois depuis un an. Fait que c'est quand même pas tant que ça. C'est juste que quand on les a vus avec la run de RKO, on avait l'impression que c'était toujours eux autres qui affrontaient RKO. C'est pas arrivé si souvent que ça, au moins, dans les 12 derniers mois. Fait que, tu sais, la perception des fois. Mais quand même, tu mets Riddle et Gable dans un même ring, tu es à peu près sûr d'avoir toujours un match excellent. Est-ce que ça nous a donné encore une fois? Il y a eu un excellent segment où Riddle est monté dans le coin, au sommet de la troisième corde pour faire un saut par en arrière. Mais là, il a été dérangé parce qu'Otis, lui, s'est dit pour le distraire, je vais rentrer violemment dans les marches et ensuite monter sur la marche du bas pour regarder Otis. Riddle dans les yeux, mais pas en tout cas. Mais tout ça est tellement distrayant. Gable est monté, lui part en arrière et fou! Release German suplex de la troisième corde. C'était de toute beauté. Ensuite, il y a eu un Tiger DDT contré et Riddle s'en est sorti au compte de 2,99. C'est très, très beau. Ensuite, encore une fois, Otis a encore une fois distrait Riddle sur le tablier, empêché Riddle d'exécuter le RKO après le Draping DDT. Et finalement, ben Gable est allé d'un backslide roll-up, espèce de tombée technique en arrière et tout. Mais là, il a été retenu dans les cordes par Otis et a permis à Gable d'aller chercher la victoire 9,45. À part la finale un peu pouette-pouette. Le reste, très bon match. 3,5 $ pour ce match. Un des matchs ce soir qui valait absolument la peine. Moi aussi qui dit que Chad Gable... C'est à regarder. Et effectivement, elle a aussi absolument raison. Et depuis que Randy n'est pas là, c'est triste pour Riddle. Je ne suis... Oui, mais non. Dans le sens où c'était très, très bon la run de Riddle et Rollins, on avait utilisé un autre ton. On avait sorti le Riddle niaiseux qui fait juste dire des affaires un peu jeu de mots avec le weed. Là, on l'avait sorti de ça. Puis là, on le ramène avec ses bongos. Je sais pas. Je sais pas qui ça fait rire, mais il y a beaucoup de monde qui rit en coulisses. Je trouve ça très drôle de voir Riddle dans ce style-là. Ça leur prend, ça leur, ils disent, ça nous prend du divertissement. C'est là-dedans qu'on va, mais pas mon divertissement favori. Segment suivant, on a eu Miz TV. Ouais. On l'attendait. Fallait qu'il s'excuse publiquement. Il est arrivé habillé un peu à la Monsieur Rogers, avec un petit chandail molletonné, un petit cachemire, un petit gaminet. Pas gaminet, mais en tout cas, bref. Il était habillé tout. Puis là, il faisait semblant de faire ben pitié. Il était habillé en innocent, finalement, et donnait des tapes aux gens. Puis je m'excuse. Puis là, rentre dans le ring pour nous dire tout ça. Et là, il a invité Byron Saxton pour l'interviewer à Miz TV. Nous dit qu'il fait très pitié. Dans le fond, il cherchait de l'empathie parce qu'il n'a jamais eu d'empathie. Puis le pauvre homme. Puis là, Dexter, il en rajoutait. Puis il voulait toujours se faire payer plus. Fait que là, finalement, il est obligé de mettre fin à tout ça. Puis il est une victime dans tout ça. Bref, Johnny est sorti, Johnny Gargano, pour nous dire que tout ça, c'était de la bullshit, comme à l'habitude. Dans le fond, il n'est pas déprimé du tout. Il était en vacances la semaine passée. Puis, il essaye encore une fois de mentir et qu'il devrait absolument payer Dexter Loomis. Mais là, Miz dit, ben voyons, je ne devrais pas. Pourquoi tu veux te mêler de ça? Finalement, Gargano avait une carte cachée dans ses poches. C'est-à-dire qu'il a demandé à la direction de la WWE d'organiser un match définitif entre The Miz et Dexter Loomis qui aura lieu à Survivor Series. Et là, ben, si Loomis l'emporte, The Miz va être obligé de tout lui payer l'argent qu'il lui doit. Et il va enfin avoir son contrat de la WWE tel que promis dans l'autre match d'il y a un mois que Miz avait attaqué par Derry. Et là, ben c'est ça. Et là, l'autre, il a dit « Non! Tu vas voir que ça se passera pas de même, puis je vais le planter. » Et là, il a dit « Ah ouais? Tu voudrais-tu lui dire ça en pleine face? » Et pour nous rappeler un grand souvenir de Miz qui avait été attaqué par John Moxley, à l'époque Dean Ambrose, déguisé en caméraman, ben ils ont fait la même affaire. Ils ont déguisé Dexter Loomis en caméraman dans le ring. Et là, ben, il a enlevé son déguisement de caméraman. Et là, The Miz est parti courir très vite parce que là, il savait. Tu sais, il avait l'expérience de s'être fait planter par Dean Ambrose comme ça. Fait qu'il s'est dit, non, pas deux fois. Mais c'est gentil de faire une petite plug pour parler de John Moxley. Il y a un gros match qui s'en vient en fin de semaine. Fait que tu sais, c'est toujours bon de ramener ça. Très original, comme on a pu le voir, du début à la fin. C'est ça. Il y a quelqu'un qui est payé pour... C'est ça qui nous rassure. Il y a quelqu'un qui est payé pour écrire toutes ces affaires-là. Et ben c'est ça. Il y a sa paye, il est heureux, il fait une belle job, il s'amuse. C'est tout. Le reste, nous, on est... Ben peut-être que vous aimez ça, je le sais pas. Moi, c'est comme le bout où je me dis, bon, ben c'est le fun, c'est le moment d'aller prendre une consommation, quelque chose... Regardez un peu réveillé. C'est le moment où il y a eu le tremblement de terre ici à Montréal. Ça nous a shaké un peu. Bien honnêtement, je me suis rendu compte d'absolument rien. J'ai tellement absorbé par ce segment de Miz. Ah, qu'est-ce qui se passe? Là, les gens, oh mon Dieu, la terre a tremblé. J'en ai manqué de belle. Mais voilà. Alors, match à Survivor Series. Ça va être correct. Hein? Ça en prend des matchs. Ça ne peut pas tout être... banger, après banger, après banger. Ça sera pas gang. M.O.C. qui nous dit, Loomis, ça n'a pas de contrat, mais il y a un team song, c'est bizarre. Ouais, mais tu sais, ça, c'est sûrement dans les rêves de Triple H qui se dit, ah, c'est encore un membre d'NXT dans le fond, malgré tout ça. Bref. Passons au prochain segment, Cathy Kelly, qui était avec Shelton Benjamin. Wow, mon Dieu, Shelton Benjamin, on l'avait quasiment oublié. Et il est interrompu par Damien Priest et Dominique. Ça se passait cet après-midi à son arrivée à l'aréna. Et là, Dominique dit « Ah, toi, t'étais même pas bon dans le temps d'Eddie Guerrero puis de mon papa, mon ancien papa, puis c'est plus mon papa. Mais moi, je suis bien meilleur qu'eux autres. Fait que dans le fond, je suis bien meilleur que toi. » Puis là, il dit « Ah ouais, t'as-tu un problème avec moi? Tu vas voir, on va se planter dans le ring. » Et là, Damien Priest était là comme un genre de bodyguard, genre de gars. Puis là, il dit hey, si t'as un problème avec Dominique, t'as un bien plus gros problème avec moi. Ce qui est assez ouf. Et là, ben, Shelton a dit ben, j'accepte ton défi dans le ring. Et regardez Dominique, il dit ton défi à toi, fait qu'on va s'affronter. Alors, ça nous a donné Dominique Mysterio face à Shelton Benjamin. C'est très, très bon. Ça aussi. Quand je vais vous dire combien de temps ça a duré, vous allez un peu... Ça a duré 4 minutes 56. 4 minutes 56. Pauvre Shelton Benjamin. Tu t'attends à ce que ce gars-là soit un petit peu plus respecté. Lui qui est quand même dans un excellent physique. Un âge, tu sais, avancé, mais pas tant maintenant dans la WWE. Et on le fait perdre en 4 minutes 56. Parce que, oh là 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 là, il tentait de faire le ankle lock à Dominique, qui était sur le bord là, d'abandonner. Rhea Ripley a distrait l'arbitre pendant que Damien Priest a tiré Dominique du milieu du ring jusqu'à la corde pour qu'il puisse attraper la corde. C'est le genre de distraction assez fâchante, ça, quand tu sais, t'as la ankle lock, t'es de même, je vais, abandonne. Là, tu vois tout ça se passer devant toi. Là. C'est pas comme si on surprenait. Là. Tu vois tout ça arriver. Tu vois Damien Priest, tu vois l'autre, puis là, t'as pas le réflexe de faire hey, arbitre! Hey! Puis là, tu vois Damien Priest tirer, puis toi, tu fais comme... Toi, ton premier réflexe, c'est juste de faire « Ah! Ah! Ah non! » Puis là, après, Dominique, puis là, l'arbitre se revire, puis il fait comme « Lâche la prise! » Puis il est comme « Ah non! » Ça n'a pas super bien fait paraître. Shelton distrait, et là, ben Frog Splash. Un beau Frog Splash à la Tamina. Et victoire de Dominique Mysterio. Il était très heureux. Très heureux. Il est vraiment... C'est ça. Même, tu as vu les belles images de Rhea qui était comme « Oh mon Dieu, qui est bon. Oh, je l'adore. » Elle voulait même se dénuder l'épaule tellement qu'elle sentait là, le charisme viril de Dominique qui exultait dans sa victoire. Alors, ben voilà. C'est ça. Pauvre Dominique. On passe. Qu'est-ce que tu veux? Moi aussi qui dit que Shelton a dû ralentir pour Dominique. C'était pas bon. J'ai même pas noté ce match-là tellement... Ah, c'était vraiment pas bon. C'était vraiment pas bon. Ça fait réagir tout le monde qui dit Logan Paul est 100 fois meilleur en 3 matchs que Dominique. C'est dommage. C'est absolument vrai, mais tu sais, même pas proche. Moi qui ai déféqué sur le match de Logan Paul contre Roman Reigns, il faut quand même admettre que Logan Paul est 100 fois meilleur que le pauvre Dominique. C'est triste, mais c'est comme ça. C'est ouf. Pauvre Dominique. Tu sais, des fois, il y en a qui disent « Ah oui, c'est bon d'avoir autant de heat, ça fait réagir la foule. » Oui, sauf que il y a une grosse partie de ce que tu reçois comme heat qui est comme « Oh, t'es pas bon, puis s'il fallait que tu quittes, on serait pas nécessairement triste. » Fait que c'est pas nécessairement super positif, ce côté-là. Mais bref, c'est pas un très gros match à rattraper. Le moment qu'on voulait voir, c'était l'entrevue d'Austin Theory avec Cathy et Kelly. Parce que pauvre Austin Theory, partout sur les internets, a été enterré. On ne croyait plus du tout que Theory aurait de chance et que là, ça serait long. Et que là, malheureusement, il serait rejeté sur le back burner. Triple H n'allait plus jamais l'utiliser. Peut-être le renvoyer à NXT, peut-être le renvoyer tout court. On ne savait pas. On disait, mon Dieu, c'est le pire cash-in de l'histoire des cash-in. C'est une vraie honte nationale. Bien, on voulait savoir ce qu'il y avait à dire, Austin Theory, à propos de ça. Et bon, on va lui donner, ils ont travaillé très fort, ils ont concocté une histoire pour nous faire avaler, c'est pas fin, mais nous faire comprendre le pourquoi, du comment, de la raison de qu'est-ce qui s'est passé avec Austin Theory. Correct. Dans le sens où l'histoire est crédible, c'est très bien. Tu vois qu'il a mis des efforts. Ils ont mis des efforts là-dedans. Ça marche de ce côté-là. Mais quand je vais vous dire, vous allez comprendre que il y a quand même quelque chose là-dedans qui n'est pas... C'est pas super winner. C'est pas super winner, ce qu'il y avait à nous dire. Ce qu'il nous a dit, en gros, je vous résume, parce qu'il a fait quand même une grosse promo avec Cathy Kelly, que dans le fond, il savait bien qu'il n'y avait pas de chance contre Roman Reigns. tu sais, à chaque fois qu'il a essayé de faire un cash-in, ça n'a pas marché. Il s'est fait pogner par Brock, il s'est fait pogner par Tyson Fury. Puis si ça n'avait pas été de ces gens-là, ça aurait été la Bloodline. Fait que là, il s'est dit, là, je suis tanné. Ce que je vais faire, c'est de penser à autre chose. Et il s'est dit que la meilleure façon, c'était de s'attaquer à cette qui était vulnérable. Et il avait réussi. Les gens pensent que c'était un échec, son cash-in, mais il avait réussi. Si ça n'avait pas été de Bobby Lashley, qui l'a sorti du ring, qui a sorti l'arbitre, je ne me souviens plus, enfin bref, qui l'a massacré aussi. Donc, tout ça, ça allait très bien, son affaire. T'sais, c'était juste une question de circonstance que ça a mal été. Son plan était fantastique. Bon, c'est une idée. Oui, on comprend. Il n'a pas tort. Il aurait mangé une volée contre Roman Reigns. Oui, mais t'sais, dans le grand plan, l'histoire au complet, là, de la patente de tout. Là. Si Austin Theory, jeune, fringant, pensant qu'il avait tout accompli, qu'il avait tout ce qu'il lui fallait pour devenir champion de la WWE, si il va jusqu'à Roman Reigns, il mange une volée par Roman Reigns, on se dit, ben voilà, jeune petit niaiseux qui n'a pas d'expérience, mais qui a le courage gros, les testicules énormes, hein, on le sait, à la WWE, on aime bien parler de testicules énormes, mais le gars qui a un courage, mais tu sais, un courage innocent, de jeunesse innocente, inexpérimentée, tu te dis, ben c'est valeureux à un moment donné, c'est valeureux un jour que peut-être qu'on se dit, ah, ce gars-là avait tout le courage, toute la volonté, mais manquait l'expérience. Maintenant, il a acquis l'expérience à laquelle tu rajoutes à tout ça. Pouf! Devient champion dans 5 ans. Et on se dit, ah, crédible. Là, ça reste qu'on se dit, ouais, t'es un peu quand même loser. Hein? T'avais la chance en or, plateau d'argent, de devenir champion. Et tout, on t'a fait, j'ai peur. J'ai un peu peur du champion qui est trop, trop bon pour moi. Alors, vu que je n'ai pas de chance, je vais y aller par la porte de côté et essayer de prendre une ceinture beaucoup moins importante. Oui, oui, c'est crédible. Je suis en dessous de beaucoup de pression, vous savez, car tous les gens pensent que je serai le prochain champion de toute l'histoire et tout. C'est ça. C'est ça. Fait que c'est bon. Son histoire se tient. Mais dans l'histoire de son personnage, c'est un peu quand même. Imagine que quelqu'un fasse ça. Tu sais, imagine là, les Astros là, qui font comme ah, là, ils sont ben trop bons. Tant pis, allons affronter une autre équipe. Hein? On ne peut pas faire ça, ça n'a pas de bon sens, ils sont ben trop bons. C'est sûr qu'on va perdre la Série mondiale. On est mieux d'aller affronter une autre équipe en dessous, puis juste gagner un championnat secondaire. Tant pis. Tu sais, ça ne marche pas tant. C'est pas dingue. Ça aurait été beaucoup mieux pour lui qui en mange une maudite contre Roman Reigns. Finito, bye-bye. Dans mon plan, il aurait dû être à War Games. Ça aurait été encore bien meilleur s'il avait été à War Games contre la Bloodline. Puis là, ben, même si le match de War Games a plus ou moins de signification, il y a toujours le risque que Roman Reigns en mange une maudite puis que là, Austin Theory puisse cacher in dans War Games. Mais là, non. Là, terminé. Donc, Jérémy, je reviens justement à ton explication de tantôt, que tu disais que justement, il y a un prestige de battre un champion comme Rollins et que, bon, ça vaut parce qu'il y a un prestige sur Rollins. Oui, mais ça, c'est théorique dans notre tête parce qu'on veut se rendre, on veut nous expliquer. Puis on veut s'expliquer à nous autres aussi que Rollins, c'est comme le champion de Raw. Et on va le voir encore ce soir. C'est qu'on veut nous dire que ouais, le champion de Rollins, c'est comme c'est le titre US, mais en réalité, c'est le titre le plus important de Raw. Puis c'est comme pour donner une importance très, très, très importante à ce titre. Oui, en théorie, vous avez raison. Mais dans les faits, tout le monde sait que c'est comme Gunther. T'sais, on a beau dire qu'il est le champion intercontinental, oh, il est très bon et tout, et oui, et les gens, bon, oui, mais on sait que c'est quand même le champion d'en dessous. Et ça n'a jamais été la Money in the Bank pour une ceinture secondaire de championnat d'en dessous. Quand t'es pogné à cash-in sur un championnat d'en dessous, c'est parce qu'on se dit que ouais, t'es pas très bon pour avoir le championnat d'au-dessus. Je comprends que c'était une erreur. C'était une erreur. Le vrai gagnant de la Money in the Bank, ça aurait dû être Seth Rollins. Ça aurait été beaucoup plus simple. Ça aurait été beaucoup plus facile si ça avait été Seth Rollins. Puis tu peux le garder très longtemps parce qu'ils sont même pas sur le même brand. Fait que quand il y aura ce moment du cash-in, ça peut prendre énormément de temps. On peut même avoir oublié avec un Seth Rollins qui a la mallette. Mais non, toi, t'es allé avec Theory. Triple H a réussi à, comme, tu sais, réparer, entre guillemets, la situation. Mais avec les rumeurs que King of the Ring serait de retour, je me demande si c'est pas Money in the Bank qui va finalement être un peu laissé parce que les derniers cash-in, ça n'a pas été. Tu sais, même Biggie, soyons honnêtes, ça n'a pas été les gros chars, ça n'a pas été un gros segment qui a révolutionné grand-chose. On s'en souvient par principe, mais sa run a été tellement, comme elle aussi, un peu bizarre, que c'est pas un gros succès, Money in the Bank, depuis un certain temps. Donc, est-ce que ce sera la fin de Money in the Bank? Peut-être. Jérémy qui dit qu'on pourrait remplacer Money in the Bank dans un match WrestleMania, ce que c'était, oui, en plus, avant qu'on ait le pay-per-view complet, ce qui n'est pas bête, ce serait quand même aussi intéressant. Et il y a toujours l'aspect que, bon, WrestleMania start des histoires, finit des histoires, ce serait intéressant aussi que Money in the Bank, ça fasse partie de ça. Et c'est souvent aussi peut-être le match pour t'as pas nécessairement une grosse histoire avec tout le monde, puis là, ben, ça permet de ramener d'autres personnes, d'élever des fois des gars qui sont dans le deux tiers du mid-card, lower card, puis oups, tu leur donnes une chance. Mais je sais pas. Bon, et moi aussi qui dit Charlotte a cash-in sur NXT. Ouais. Mais c'est Charlotte, en même temps. Elle qui a été cash-in sur toutes les autres. Mais ouais, mettons. Mais en même temps, tu vois, si Theory avait cash-in sur le titre NXT, ça aurait été plus intéressant. Mais bon, voilà. Après, tout le monde a son interprétation de tout ça. Mais bravo. Elle aussi qui demande si cash-in sur Roman présentement, ce serait-tu crédible? Il devient grand champion. Mais non, pas pour gagner. C'est sûr que Theory n'allait pas gagner. Mais ça, c'est correct. Mais manger une volée, c'est pas une question de tu deviens peut-être champion. Non, on savait qu'il n'allait pas devenir champion. Mais ça pourrait établir que la crédibilité, pas la crédibilité, mais le courage, l'énergie, le désir, la vision qui se voit comme un grand champion. Quand tu ne te vois pas comme un grand champion puis que tu te dis « je peux pas battre celui qui est au sommet », qu'est-ce que tu fais là? Puis je comprends que c'est très théorique et philosophique, puis on est dans de l'analyse de lutte caviar. Mais si tu n'as pas l'intention dans ta tête de devenir le plus grand champion qui se peut, c'est que... Ouais. Tu sais, c'est un peu comme à la boxe. Si à la boxe, tu te dis « Oh, pas sûr que je dois devenir champion, à quoi ça sert de manger des coups? » Je le pose, la question. Mais bon, ça reste... excessivement philosophique. Passons justement au match entre Austin Theory, parce qu'il y a eu match ensuite, parce que Dolph Ziggler, après toute cette promo, lui a dit « Ouais, j'aurais pu t'aider. » Vous vous souvenez qu'il y a eu une petite... Hein? On ne savait pas trop pourquoi il y a eu une rivalité entre Dolph Ziggler et Austin Theory. Ben c'était... On est revenu à ça. Ça datait du mois d'août. On est revenu à cette rivalité. Et là, Theory est un peu comme très choqué de s'être fait dire par Dolph Ziggler que « Hey, le kid, t'aurais pu, tu sais, hein, m'écouter mes conseils, moi qui ai fait le meilleur cash-in de l'histoire. » Débattable avec Seth Rollins, mais bon. Très fier de son cash-in, Dolph. Et ben, il s'est un peu moqué de Theory. Fait que là, Theory, dis-moi, t'as le montré dans le ring. Ce qui nous a donné ce match entre Austin Theory et Dolph Ziggler, les deux qui se sont affrontés. Gros match. Et là, je vous ai teasé depuis le début que vous allez rentrer dans mon esprit. Si vous avez regardé le match, vous allez excessivement comprendre comment j'analyse le produit de la WWE et aussi celui de la All Elite. Mais voilà, c'est mon appréciation. Après, vous en faites ce que vous voulez. C'est un match excellent sur papier. Très, très, très bon match. Theory, Ziggler, les deux se sont échangés. Theory qui voulait montrer qu'il était devenu plus agressif et de la façon qu'il l'a fait, c'est d'envoyer Ziggler très, très, très violemment dans le poteau. Ça, c'était sa nouvelle méthode pour nous exprimer que il était enragé de sa défaite de la semaine dernière. Fine. Malheureusement, pour Dolph, surtout, c'est que par deux fois, Dolph va réussir à surprendre Theory. D'abord, avec son Famouser, encore une fois pour un 2.99. Et ensuite, ben là, à un moment donné, à force de se faire envoyer dans le poteau, il s'est dit, là, je t'en ai. Il a renversé la situation et il a envoyé Theory dans le poteau avant d'y faire son zigzag. Un, deux, trois. Ah, encore un autre 2.99. Et là, Theory là, a décidé de venir complètement enragé et a fait le 8 on down à Dolph. Et là, on pense que le match est fini, mais non, il le regarde, puis il le regarde très intensément, gisant sur le sol, sur le matelas. Et là, il décide de le reprendre, faire un autre étant down. Et là, il le renvoie à l'extérieur. Il commence à le massacrer à l'extérieur. Mais là, l'arbitre, au lieu de juste faire son travail d'arbitre, là, il sort avec Austin, puis il dit « Arrête ça, arrête ça, tu vas le massacrer, tu vas le tuer, le pauvre Dolph, oh mon Dieu, il est déjà à terre. » Puis il est déjà... Il n'arrête pas le match. Mais il est comme... Puis là, finalement, à force que Theory massacre Dolph à coup de poing, puis à coup de ci, puis à coup de whatever, et là, il arrête le match. Comme, ah non, il faut arrêter tout ça, ça n'a pas de bon sens. Au bout de 14 minutes. Et là, Theory pète une coche, l'envoie par-dessus la barricade des gardiens du temps, lance des chaises, lance n'importe quoi. Puis là, les officiels arrivent. Mon Dieu, Theory est rendu fou. Et là, ben, il sort finalement, puis il est rendu fou. Le but, moi je me dis tout le temps, quel est le but du match? Le but du match, c'est de nous montrer que Theory, il est rendu fâché. Fâché d'avoir perdu, fâché d'avoir eu l'air stupide, idiot. Là, il se dit, c'est terminé, je ne suis plus le petit garçon, tout le monde pense que je n'ai pas d'expérience, etc. Non, je vais montrer que je suis un enragé fini. Bon, c'est ça que tu veux me montrer. Pourquoi tu prends le temps de faire passer Dolph Ziggler pour quelqu'un qui a perdu son offensive? Tu sais, ça ne servait absolument à rien. Une fois, peut-être. Un Famouser, puis là, il rate 2.99, Theory, pète une coche, et là, se met à péter. Pourquoi? En plus, tu fais deux eight on down pour dire, et tant pis, là. Austin Theory est bien meilleur que Dolph Ziggler. Pourquoi tu passes par tout ça pour nous raconter la même affaire que tu aurais pu raconter juste avec Theory? Qui pète une coche. Non, là, tu nous rajoutes que Dolph Ziggler, il est rendu pas bon, et tu nous rajoutes que Austin Theory est excessivement résilient. C'était-tu nécessaire dans ce match-là? C'était-tu vraiment important qu'on sache qu'Austin Theory, même s'il soit, il reçoit deux finishers, non, c'est pas suffisant pour le battre. Y a-tu été chercher une crédibilité? Non. Ce qu'on veut, c'est tout le segment d'après, puis toute la, la folie, puis là, il pète une coche, puis c'est ça qu'on veut voir. Puis c'est ça que tu veux exprimer de toute façon. Puis c'est ça qu'on va retenir. Fait que j'ai trouvé que c'était vraiment ordinaire pour Dolph Ziggler de subir deux finishers, que ces deux finishers, ça marche pas. Tu fais comme, pourquoi? Ça sert à rien. Alors que j'aurais dû retenir tout le positif de ce match-là, qui est Theory, qui, là, il s'est sorti complètement de qu'est-ce qu'on pensait. On pensait qu'il allait être complètement enterré. Non, il s'en sort. Puis là, il revient puis en disant, genre, « I'm back, bitches! » Et je vais tout planter, fâché, je suis... Tac! Voilà. Fait que, tu sais, je sais pas. Mais c'est ça que, tu vois, vous me demandez des fois, pourquoi, qu'est-ce que, des détails. Des affaires, oui, c'est très analyse de lutte caviar, mais c'est ces affaires-là que je suis comme, pourquoi? C'est comme, tu t'en fais trop. Mais en même temps, tu me fais des affaires, tu ne me mets pas en valeur. Je trouve, je comprends pas. C'est comme pour Shelton, Benjamin, pourquoi tu me mets? Mais voilà. Alors, ça explique. Theory, un psychopathe, oui, ça fait penser à Randy Orton. Ouais. On va voir jusqu'à où ça va aller, tout ça. Mais oui, oui, un peu de tout ça, mais à la différence, hein. Et on va le voir un peu plus tard. C'était très important, ben pas très important, mais très pertinent, la façon d'être psychopathe avec le out of nowhere. Et Theory, c'est peut-être l'affaire qui est un peu moins avec son finisher. C'est dommage, mais c'est le petit côté. Il est moins out of nowhere. Mais qui à part Randy Orton, peut être autant out of nowhere? Mais on va en reparler sur la fin et le dernier segment, parce qu'il faut passer absolument. Corbin, oh là là, je vous ai parlé d'Akira Tozawa. L'utilisation d'Akira Tozawa ce soir, c'était fantastique. Corbin et JBL qui étaient au poker. Ils ont joué au poker. Ils se sont mis à planter un double par rapport au poker pour établir qu'il était très, très bon au poker. Il est arrivé à Akira Tozawa et lui, il s'est assis à table. Il dit, je veux jouer au poker. Et là, ben, JBL il a dit, tu connais-tu les règles? Tu déjà joué au poker? Non. Bon, ben c'est bon, ton argent est excellent ici. Et là, on revient au segment suivant. Puis là, t'as Baron, puis Corbin. T'as Baron Corbin, oui. Baron Corbin, puis JBL. Sont là, puis on chauffe. C'est comme, oh mon Dieu, on se fait battre. Puis là, finalement, ben, Tozawa sort trois rois. Puis il bat Corbin, qui essaye de faire comme s'il y avait des as. Mais non. Puis là, ben finalement, Tozawa défie Baron dans un match. C'est ça. Eh bien, ça nous a donné 3 minutes 33 de match incroyable où Tozawa a quand même dominé une bonne partie avec même son Shining Wizard, l'espèce de presque le Busaikoni de Bryan Danielson. Et finalement, ben, Tozawa a fait un peu à la Kofi Kingston, c'est-à-dire sauter directement dans un finisher. Mais il faut que tu sautes. Transition, vire de bord, flop, flop, end of days. Et finalement, 3 minutes 33. Ça valait la peine! Tozawa. Pauvre Tozawa. Donc, il ne reste que Reggie qu'on n'a pas revu depuis. Hein? Est-ce que Reggie a encore des chances? Bon, passons maintenant au main event de la soirée. C'est Finn Balor qui affrontait Seth Rollins pour le titre des États-Unis. Et avant le match, on a eu une petite promo parce que pour terminer le segment des femmes de tantôt, c'est Alpha Academy qui est arrivé. Fiers, eux autres, parce que là, ça fait 2 semaines en ligne qu'ils ont des victoires, sont heureux, ça va bien, ça va bien. Et là, Seth Rollins, lui, est arrivé en chantant « Chou, 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 chou. » C'est bizarre, c'est très bizarre. Finn Balor, en entrevue, lui, on lui a demandé « Vas-tu accepter le défi de AJ Styles? » Ben oui, c'est sûr. Mais je m'en fous parce que de toute façon, j'ai un match ce soir. Ben voilà. Moi aussi qui dit que Tozawa a gagné de l'argent. Oui, il est parti avec un peu d'argent. C'est quand même ça. Tozawa est parti avec de l'argent. Ça devait... c'est ça. C'est positif. C'est positif pour Tozawa de le revoir. Il a été à télé. J'imagine qu'il est aussi ressorti avec un peu d'argent de ça. Bref, on nous réservait donc un très gros match. C'était toute la fin de la 3e heure. Des fois, on dit que la 3e heure de Raw est souvent à éviter. Mais ce soir, c'était probablement la meilleure, en tout cas, la meilleure demi-heure à regarder assurément de cette fin de Monday Night Raw. Et c'était très, 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 très Attitude Era pour ceux qui ont connu la Attitude Era. On était à un détail près de retrouver tout ce qu'on se faisait donner à tous les lundis durant la période de quoi? Fin des années 90, début 2000. Parce que, bon, naturellement, Finn Balor est avec le... Judgment Day. Ce qui fait que malgré que bon, les deux, ça a été très, très long match, quand même 21 minutes, et on s'est échangé. Finn Balor a beaucoup évité les grosses manœuvres de Seth Rollins, mais malheureusement, a subi un sit-down powerbomb très efficace, très bon. Manœuvre qu'on n'a pas vu Rollins faire si souvent que ça dans les dernières années. Ensuite, Finn a renversé le Falcon Arrow que Rollins fait habituellement à la fin de la superplex de la 3e corde, de le renverser avec un 1916, d'aller chercher un compte de 2. Finalement, Balor attaquait beaucoup les côtes de Rollins tout le long du match pour établir le coup de grâce. Et petit détail que j'ai remarqué autant vendredi chez Michael Cole que Corey Graves cette semaine, on commence à nommer les arbitres tout à coup. Donc, Sean Bennett Première fois que j'entendais son nom, Sean Bennett, qui était l'arbitre ce soir. Donc, voilà. Et là, c'est là que l'Attitude Era nous est revenue à plein régime. C'est-à-dire les interventions de masse, le Judgment Day qui est arrivé et Dominique qui a été le premier à faire une distraction sur Rollins. Tu sais, on se souviendra que ça ne fait pas si longtemps quand Dominique avait changé son fusil d'épaule et avait trahi son père que Rollins était le premier à être très heureux de ça. Ah, comment les mois changent. Ça va vite, ça va vite. Et donc, Rollins a été distrait. Finalement, ça a redonné l'avantage. Mais là, pendant ce temps-là, c'est le chaos à l'extérieur. Pourquoi DOC qui arrive, Gallows et Anderson, qui viennent attaquer. Et là, ben, ça se dirige tout au long. Mia Yim qui vient attaquer Rhea Ripley. Et c'est le seul élément qui manquait. Ce qui nous manquait à ce match-là, c'est que Damage Control vienne aider Rhea Ripley et que là, toutes les femmes, finalement, se retrouvent aux abords du ring. On n'a pas eu ça. Ça s'est concentré en Mia Yim et Rhea Ripley. Je soupçonne... j'allais dire que les deux allaient probablement s'affronter la semaine prochaine pour déterminer l'avantage dans le War Games, mais on n'a pas vu Rhea Ripley. Malgré qu'elle a eu des matchs dans les house shows, on ne l'a pas revu encore, Rhea Ripley. Est-ce qu'on attend de la ramener à la télévision? Je ne sais pas. Mais bon, peut-être la semaine prochaine, dans un premier match, juste avant War Games, peut-être. Ça serait quand même logique dans l'histoire, on verra. Mais donc, ça se bat à l'extérieur. Finalement, Finn Balor va se faire surprendre par AJ Styles parce que Dominique, lui qui a très peur, rentre dans le ring à un mauvais moment. L'arbitre est dérangé par Dominique, ce qui permet à AJ Styles de faire tomber Finn Balor du coin, lui qui s'en allait faire le coup de grâce. Et finalement, on s'en va à l'extérieur. Ça se tapoche à l'extérieur, dit aussi Judgment Day. Il y a Priest qui va envoyer Carl Anderson sur la table des commentateurs, va se faire passer par-dessus la barricade. AJ Styles va s'en mêler et tout ça. Et en bout de piste, Rollins va aller compléter le match, aller chercher la victoire avec le stomp. Et au bout de 21 minutes 13, il l'emporte. Et là, on pense que Rollins sort roi de la montagne. Mais non! Theory qui arrive à la toute fin, et qui vient s'en prendre à Rollins, lui disant « Ce n'est pas fini, cette histoire! » Alors là, il l'attaque, et deux fois, lui sert un « eight and down » avant de prendre la ceinture des États-Unis. Et paclao! Un bon coup de ceinture. Question de rajouter ce point d'exclamation, c'est donner le dernier coup de pelle. Et voilà, pour sortir Austin Theory d'un éventuel enterrement. Alors voilà, c'est donc Austin Theory qui est au sommet pour l'instant. Est-ce que ça met la table à un match à Survivor Series? Probablement. Et y a Bobby, il y a Mustafa Ali quelque part qui est encore là-dedans. T'sais, est-ce qu'on pourrait avoir un four-way? Ce serait peut-être intéressant de voir un petit four-way avec Rollins. Avec, ça serait une belle... contrepartie à Chris Jericho qui défend son titre dans un four-way, le titre ROH, peut-être, je ne sais trop, mais ça quand même on a mis une bonne table, je pense, pour un Theory Rollins, puis peut-être Bobby, on verra, lui qui n'a pas de rôle encore à Survivor Series, on verra. Jérémy qui dit qu'il aimerait bien voir Asuka contre Io, c'est vrai que ça aussi, ça serait pas mal pour nous donner un excellent match et déterminer qui seront celles qui auront l'avantage. Ce serait très bien, la semaine prochaine, de voir ça. Ça va être déjà aussi dans le War Games. Pas mal convaincu que les deux vont se retrouver en même temps. Si ce n'est pas en premier, à un moment donné, ça pourrait très bien se retrouver à un moment donné que les deux se fassent s'affrontent dans le War Games et que ce soit un des meilleurs moments. Est-ce que... Io va s'élancer avec une poubelle sur la tête. On ne le sait pas. Tout est possible. Hein. On peut s'imaginer tous les scénarios. On verra. Et qui ce sera la cinquième? Candice? Sacha? On verra. Ça aussi, ça va être intéressant. Bref, Raw a été sauvé par la dernière demi-heure. Tout le reste, yesh! Dolph, ça n'était pas pire. Dolph avec Austin Theory, c'était très bien. Pour le reste... Yesh! Riddle, Gable, c'est pas mal les trois faits saillants de cet épisode. Le reste, je pense que vous avez eu pas mal tout, c'est ça. Ce genre d'épisode qu'on a rempli, on remplit, on remplit. Et on se rend à bon port jusqu'à Wargames. Il y aura un défi après Wargames, parce que là, pas d'épisode 1, pas de Day 1. On n'a rien annoncé. Il n'y a techniquement rien jusqu'au Royal Rumble. Il y a un défi. J'ai bien hâte de voir où Triple H va s'en aller après ça. La feuille est ouverte, mais en même temps, sûrement des épisodes spéciaux, j'imagine, quelque part. Peut-être une bataille à Noël dans l'Inde et tout. Mais enfin, on verra. C'est encore très loin, mais ça sera sûrement en tout cas, un bon défi. J'ai hâte de voir. Mais Wargames s'annonce, c'est sûr. Puis ceux qui n'ont pas vu, ben, on a donné tous les règlements de Wargames. Si vous n'avez jamais regardé Wargames, ni Blood and Guts, ben, tous les règlements. C'est très, très simple. C'est comme 5, 5, 3, 3, puis après ça, pouf, pouf, puis là, bing, 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 puis tant que tout le monde n'est pas dans le ring, c'est pas, tu sais. Bref, tu sais, c'est le fun qui nous donne tout ça. Ah, les gens confus. Mais, c'est comme ça que se termine cette édition de la révision des comptes pendant que je repars ma petite musique de fin. Merci beaucoup à vous tous d'avoir été là. N'hésitez pas de partager, de vous abonner à la chaîne si vous n'êtes pas déjà abonné. Je vous invite à le faire pour soutenir la chaîne. Grosse semaine encore. Dynamite mercredi. Rampage samedi. Pas samedi, pardon. Je suis déjà une autre journée de plus. Vendredi et samedi, Full Gear en provenance du New Jersey où MJF et John Moxley. À quelle direction on va aller? Est-ce qu'on va déjà donner la ceinture à ce jeune blanc-bec qui pense qu'il sait tout? Et qui n'a pas encore l'expérience. C'est ce qu'on verra en fin de semaine. Donc, grosse semaine. Je vous en souhaite une très bonne. Je vous convie mercredi pour une autre révision des comptes. Et surtout, c'est ça. Vous restez actifs. Hein? Là, c'est la période la plus difficile. Le soleil qui quitte très, très tôt dans l'après-midi. Mais surtout, c'est ça. Restez actifs. Gardez-vous en vie. Et puis, on se retrouve mercredi pour une autre révision des comptes. Merci beaucoup à tout le monde d'avoir été là à mercredi.
C'est la révision des comptes, aïe.